Alexandre Dumas, le meneur de loups. Introduction. Ce que c'était que Moquet et comment cette histoire est parvenue à la connaissance de celui qui la raconte. Pourquoi, pendant les 20 premières années de ma vie littéraire, c'est-à-dire de 1827 à 1847, pourquoi ma vue et mon souvenir se sont-ils si rarement reportés vers la petite ville où je suis né, vers les bois qui l'environnent, vers les villages qui l'entourent? Pourquoi tout ce monde de ma jeunesse me semblait-il disparu et comme voilé par un nuage, tandis que l'avenir vers lequel je marchais m'apparaissait limpide et resplendissant, comme ces îles magiques que Colomb et ses compagnons prirent pour des corbeilles de fleurs flottant sur la mer? Hélas, c'est que pendant les 20 premières années de la vie, on a pour guide l'espérance, et pendant les 20 dernières, la réalité. Du jour où, voyageur fatigué, on laisse tomber son bâton, où l'on desserre sa ceinture et où l'on s'assied au bord du chemin, de ce jour-là, on jette les yeux sur la route parcourue. Et, comme c'est l'avenir qui s'embrume, on commence à regarder dans les profondeurs du passé. Alors, près d'entrer que l'on est dans les mers de sable, on est tout étonné de voir, peu à peu, poindre sur la route déjà parcourue des oasis merveilleuses d'ombre et de verdure, devant lesquelles on a passé non seulement sans s'arrêter, mais presque sans les voir. On marchait si vite dans ce temps-là, on avait si grande hâte d'arriver où l'on n'arrive jamais, au bonheur. C'est alors que l'on s'aperçoit que l'on a été aveugle et ingrat. C'est alors qu'on se dit que si l'on trouvait encore sur son chemin un de ces bosquets de verdure, on s'y arrêterait pour le reste de la vie. On y planterait sa tente pour y terminer ses jours. Mais, comme le corps ne retourne pas en arrière, c'est la mémoire seule qui fait ce pieux pèlerinage des premiers jours, et qui remonte à la source de la vie, comme ces barques légères aux voiles blanches qui remontent le cours des rivières. Puis le corps continue son chemin. Mais le corps sans la mémoire, c'est la nuit sans l'étoile, c'est la lampe sans la flamme. Alors, le corps et la mémoire suivent chacun une route opposée. Le corps marche au hasard vers l'inconnu, la mémoire brille en feu follet, voltige au-dessus des traces laissées sur le chemin. Elle seule est sûre de ne point s'égarer. Puis, chaque oasis visitée, chaque souvenir recueilli, elle revient d'un vol rapide vers le corps de plus en plus lassé. Et comme un bourdonnement d'abeilles, comme un chant d'oiseaux, comme un murmure de source, elle lui raconte ce qu'elle a vu. Et, à ce récit, l'œil du voyageur se ranime, sa bouche sourit, sa physionomie s'éclaire. C'est que, par un bienfait de la Providence permet que, ne pouvant pas retourner vers la jeunesse revienne à lui. Et dès lors, il aime à raconter tout haut ce que lui dit tout bas sa mémoire. Est-ce que la vie serait ronde comme la terre? Est-ce que sans s'en apercevoir, on en ferait le tour? Est-ce qu'à mesure qu'on approche de la tombe, on se rapprocherait de son berceau? 2. Je ne sais, mais je sais ce qui m'est arrivé, à moi. À ma première halte sur le chemin de la vie, à mon premier regard en arrière, j'ai d'abord raconté l'histoire de Bernard et de son oncle Berthelin, puis celle d'Ange Pitou, de sa fiancée et de tante Angélique, puis celle de Conscience l'innocent et de sa fiancée Mariette, puis celle de Catherine Blum et du père Vatrin. Aujourd'hui, je vais vous raconter celle de Thibaut, le meneur de loups et du seigneur de Vaise. Maintenant, comment les événements que je vais faire passer sous vos yeux sont-ils venus à ma connaissance? Je vais vous le dire. Avez-vous lu mes mémoires et vous rappelez-vous un ami de mon père nommé Moquet? Si vous les avez lus, vous vous souvenez vaguement du personnage. Si vous ne les avez pas lus, vous ne vous en souvenez pas du tout. Dans l'un et l'autre cas, il est donc important que je remette Moquet sous vos yeux. Du plus loin qu'ils me souviennent, c'est-à-dire de l'âge de 3 ans, nous habitions, mon père, ma mère et moi, un petit château nommé Les Fossés, situé sur les limites des départements de l'Aisne et de l'Oise, entre Aramon et Lompré. On appelait ce petit château Les Fossés, sans doute parce qu'il était entouré d'immenses fossés remplis d'eau. Je ne parle pas de ma sœur, elle était en pension à Paris et nous ne la voyions qu'un mois sur 11, c'est-à-dire aux vacances. Le personnel de la maison, à part mon père, ma mère et moi, se composait 1. D'un gros chien noir nommé Truffe, qui avait le privilège d'être le bienvenu partout, attendu que j'en avais fait ma monture ordinaire. 2. D'un jardinier nommé Pierre, qui faisait pour moi dans le jardin ample provision de grenouilles et de couleuvres, sorte d'animaux dont j'étais fort curieux. 3. D'un nègre, valet de chambre de mon père, nommé Hippolyte, espèce de jocrisse noire dont les naïvetés étaient passées en proverbe, et que mon père gardait, je crois, pour compléter une série d'anecdotes qu'il eût pu opposer avec avantage aux janoteries de Brunet. 4. D'un garde, nommé Moquet, pour lequel j'avais une grande admiration, attendu que, tous les soirs, il avait à raconter de magnifiques histoires de revenants et loups-garous, histoires qui s'interrompaient aussitôt que paraissait le général. C'est ainsi que l'on appelait mon père. 5. Enfin, d'une fille de cuisine, répondant au nom de Marie. Cette dernière se perd complètement pour moi dans les brouillards crépusculaires de ma vie. C'est un nom que j'ai entendu donner à une forme restée indécise dans mon esprit, mais qui, autant que je puis me le rappeler, n'avait rien de bien poétique. Au reste, nous n'avons aujourd'hui à nous occuper que de Moquet. Essayons de faire connaître Moquet au physique et au moral. 3. Moquet était au physique un homme d'une 40aine d'années, court, trapu, solide des épaules, ferme des jarrets. Il avait la peau brunie par le hâle, de petits yeux perçants, des cheveux grisonnants, des favoris noirs passant en collier sous son cou. Il m'apparaît au fond de mes souvenirs avec un chapeau à 3 cornes, une veste verte à boutons argentés, une culotte de velours à côtes, de grandes guêtres de cuir, carnassière à l'épaule, fusil au bras, brûle-gueule à la bouche. Arrêtons-nous un instant à ce brûle-gueule. Ce brûle-gueule était devenu, non pas un accessoire de Moquet, mais une partie intégrante de Moquet. Nul ne pouvait dire avoir vu Moquet sans son brûle-gueule. Quand, par hasard, Moquet ne tenait pas son brûle-gueule à la bouche, il le tenait à la main. Ce brûle-gueule, destiné à accompagner Moquet au milieu des plus épais fourrés, devait présenter le moins de prise possible au corps solide qui pouvait amener son anéantissement. Or, l'anéantissement d'un brûle-gueule bien culotté était pour Moquet une perte que les années seules pouvaient réparer. Aussi, la tige du brûle-gueule de Moquet ne dépassait jamais 5 ou 6 lignes, et encore pouvait-on toujours, sur les 5 ou 6 lignes, parier pour 3 lignes au moins en tuyau de plume. Cette habitude de ne pas quitter sa pipe, laquelle avait creusé son étau entre la 4e incisive et la 1ère molaire de gauche, en faisant disparaître presque entièrement les 2 canines, avait amené chez Moquet une autre habitude, qui était celle de parler les dents serrées, ce qui donnait un caractère particulier d'entêtement à tout ce qu'il disait. Or, ce caractère d'entêtement devenait encore plus remarquable lorsqu'il ôtait momentanément sa pipe de la bouche, aucun obstacle n'empêchant plus ses mâchoires de se rejoindre et les dents de se serrer, de manière à ne plus laisser passer les paroles que comme un sifflement à peine intelligible. Voilà ce qu'était Moquet au physique. Les quelques lignes qui vont suivre indiqueront ce qu'il était au moral. 4. Un jour, Moquet entra dès le matin dans la chambre de mon père, encore couché, et se planta devant son lit, debout et ferme comme un poteau de carrefour. « Eh bien, Moqué, lui demanda mon père, « qu'y a-t-il et qui me procure l'avantage de te voir de si bon matin ?»«
Il y a, général, répondit gravement Moqué, « il y a que je suis cauchemardé. »
Moqué, sans s'en douter, avait enrichi la langue française d'un double verbe actif et passif.
« Tu es cauchemardé, ho, ho !»
fit mon père en se soulevant sur le coude.
« C'est grave, cela, mon garçon !»«
C'est comme cela, mon général !» Et Moqué tira son brûle-gueule de sa bouche, ce qu'il ne faisait que rarement et dans les grandes occasions.
« Et depuis quand es-tu cauchemardé, mon pauvre Moqué ?» demanda mon père.
« Depuis 8 jours, général !»«
Et par qui, Moqué ?»
Oh, je sais bien par qui, répondit Moqué, les dents d'autant plus serrées que son brûle-gueule était à sa main et sa main derrière son dos.
Mais enfin, peut-on le savoir?
Par la mère Durand, d'Aramon, qui, vous ne l'ignorez pas, général, est une vieille sorcière.
Si fait, je l'ignorais, Moqué, je te jure.
Oh, mais moi, je le sais, je l'ai vu passer à cheval sur un balai pour aller au sabbat.
Tu l'as vu passer, Moqué?
Comme je vous vois, mon général, sans compter qu'elle a chez elle un vieux bouc noir qu'elle adore.
Et pourquoi te cauchemarde-t-elle?
Pour se venger de ce que je l'ai surprise dansant sa ronde diabolique à minuit sur les bruyères de Gondreville.
Moqué, c'est une grave accusation que tu portes là, mon ami, et avant de répéter tout haut ce que tu me dis tout bas, je te conseille d'amasser quelques preuves.
Des preuves? Allons donc, est-ce que tout le monde ne sait pas bien dans le village que dans sa jeunesse elle a été la maîtresse de Thibaut, le meneur de loups?
Diable, Moqué, il faut faire attention à cela.
J'y fais attention aussi, et elle me le paiera, la vieille taupe. La vieille taupe était une expression que Moqué empruntait à son ami Pierre le jardinier, lequel, n'ayant pas de plus grand ennemi que les taupes, donnait le nom de taupe à tout ce qu'il détestait.
5.
Il faut faire attention à cela, avait dit mon père.
Ce n'est pas que mon père crût au cauchemar de Moqué. Ce n'est pas même qu'en admettant l'existence du cauchemar, il crut que c'était la mère Durand qui cauchemardait son garde. Non. Mais mon père connaissait les préjugés de nos paysans. Il savait que la croyance au sort est encore fort répandue dans les campagnes. Il avait entendu raconter quelques terribles exemples de vengeance de la part d'ensorcelés qui avaient cru rompre le charme en tuant celui ou celle qui les avait charmés. Et Moqué, lorsqu'il était venu dénoncer la mère Durand à mon père, avait mis dans sa dénonciation un tel accent de menace. Il avait serré les canons de son fusil de telle façon que mon père avait cru devoir abonder dans le sens de Moqué, afin de prendre sur lui assez d'influence pour qu'il ne fît rien sans le consulter. Aussi, croyant cette influence établie, mon père se hasarda-t-il à dire
« Mais avant qu'elle te le paie, mon cher Moqué, il faudrait bien t'assurer qu'on ne peut te guérir de ton cauchemar. »
« On ne peut pas, général !» répondit Moqué d'un ton assuré.
« Comment on ne peut pas ?»«
Non, j'ai fait l'impossible. »«
Qu'as-tu fait ?»«
D'abord, j'ai bu un grand bol de vin chaud avant de me coucher. »«
Qui t'a conseillé ce remède-là, c'est Monsieur Lécosse ?»
Monsieur Lécosse était le médecin en renom de Villers-Cotterêts.
« Monsieur Lécosse !» fit Moqué. « Allons donc !» Est-ce qu'il connaît quelque chose au sort?
Non, pardieu, ce n'est pas Monsieur Lécosse.
Qui est-ce donc?
C'est le berger de Longpré.
Mais un bol de vin chaud, animal, tu as dû être ivre-mort après l'avoir bu.
Le berger en a bu la moitié.
Je comprends l'ordonnance, alors. Et le bol de vin chaud n'a rien fait?
Non, général. Elle est venue piétiner cette nuit-là sur ma poitrine, comme si je n'avais absolument rien pris.
Et qu'as-tu fait encore? Car tu ne t'es pas borné, je présume, à ton bol de vin chaud.
J'ai fait ce que je fais quand je veux prendre une bête fausse. Moquet avait une phraséologie qui lui était particulière. Jamais on n'avait pu lui faire dire « une bête fauve ». Toutes les fois que mon père disait « une bête fauve », Moquet reprenait « oui, général, une bête fausse ».
« Tu tiens donc à ta bête fausse ?» avait dit une fois mon père.
« J'y tiens, non pas par entêtement, mon général. »
« Et pourquoi donc y tiens-tu alors ?»«
Parce que, sauf votre respect, mon général, vous vous trompez. »«
Comment ? Je me trompe ?»«
Oui, l'on ne dit pas une bête fauve, on dit une bête fausse. »«
Et que veut dire une bête fausse, Moquet ?»«
Cela veut dire une bête qui ne va que la nuit. » Ça veut dire une bête qui se glisse dans les pigeonniers pour étrangler les pigeons, comme les fouines, dans les poulaillers pour étrangler les poules, comme les renards, dans les bergeries pour étrangler les moutons, comme les loups. Ça veut dire une bête qui trompe, une bête fausse, enfin.
La définition était si logique qu'il n'y avait rien à répondre. Aussi, mon père ne répondit-il rien. Et Moquet triomphant, continua-t-il d'appeler les bêtes fauves des bêtes fausses, ne comprenant rien à l'entêtement de mon père qui continuait d'appeler des bêtes fausses des bêtes fauves. Voilà pourquoi, à la question de mon père « Et qu'as-tu fait encore ?» Moquet avait répondu « J'ai fait ce que je fais quand je veux prendre une bête fausse. » Nous avons interrompu le dialogue pour donner l'explication que l'on vient de lire, mais entre Moquet et mon père, qui n'avait pas besoin d'explication, le dialogue continuait. 6.
Et que fais-tu, Moquet, quand tu veux prendre une bête fauve ? Demanda mon père.
Général, je prépare un piège.
Comment ? Tu as préparé un piège pour prendre la mère Durand ?
Moquet n'aimait pas que l'on prononçât les mots autrement que lui. Aussi reprit-il.
« J'ai préparé un piège pour la mère Durand, oui, général. »«
Et où l'as-tu mis, ton piège ? À ta porte ?»
Mon père, comme on le voit, faisait des concessions.
« Ah bien oui, à ma porte, » dit Moquet. « Est-ce qu'elle passe par ma porte, la vieille sorcière ? Elle entre dans ma chambre que je ne sais seulement point par où. »«
Par la cheminée, peut-être ?»
Il n'y en a point. D'ailleurs, je ne la vois que quand je la sens.
Tu la vois ?
Comme je vous vois, général.
Et que fait-elle ?
Oh, quant à cela, rien de bon. Elle me piétine sur la poitrine. Vlan, vlan, vlan.
Enfin, où as-tu mis le piège ?
Le piège ? Je l'ai mis sur mon estomac, donc.
Et quel piège as-tu mis ?
Oh, un fameux piège.
Lequel ?
Celui que j'avais préparé pour prendre le loup gris qui venait étrangler les moutons de Monsieur Détournelle.
Pas si fameux ton piège, Moquet, puisque le loup gris a mangé ton appât et ne s'est pas pris.
Il ne s'est pas pris. Vous savez bien pourquoi, général.
Non.
Il ne s'est pas pris parce que c'est le loup noir de Thibault le sabotier.
« Ce n'est pas le loup noir de Thibault le sabotier, Moquet, puisque tu avoues toi-même que le loup qui venait étrangler les moutons de Monsieur Détournelle était gris. »«
Il est gris aujourd'hui, mon général, mais du temps de Thibault le sabotier, c'est-à-dire il y a 30 ans, il était noir. »«
À preuve, mon général, c'est qu'il y a 30 ans, j'étais noir comme un corbeau, et qu'à présent, je suis gris comme le docteur. »
Le docteur était un chat auquel j'ai essayé, dans mes mémoires, de donner une célébrité relative, et qu'on appelait le docteur à cause de la magnifique fourrure dont la nature l'avait doué.
« Oui, dit mon père, je connais ton histoire de Thibault le sabotier, mais si le loup noir est le diable, comme tu dis, Moquet, il ne doit pas changer. »
« Si fait, mon général. Seulement, il met 100 ans à devenir tout blanc, et à chaque minuit de la 100e année, il redevient noir comme un charbon. »
« Je passe condamnation, Moquet. Seulement, je te prie de ne pas raconter cette belle histoire-là à mon fils avant qu'il ait 15 ans au moins. »
« Pourquoi cela, mon général ?
parce qu'il est inutile de lui farcir l'esprit de pareilles sottises avant qu'il soit assez grand pour se moquer des loups, qu'ils soient blancs, gris ou noirs.
C'est bien, mon général, on ne lui en parlera point.
Continue. Où en étions-nous, mon général ?
Nous en étions au pierge que tu as mis sur ton estomac, et tu disais que c'était un fameux pierge.
Ah, ma foi, oui, mon général, que c'en était un fameux pierge. Il pesait bien 10 livres.
Qu'est-ce que je dis donc ? 15 livres au moins, avec sa chaîne.
La chaîne, je l'avais passée à mon poignet.
Et cette nuit-là ?
Oh, cette nuit-là, ça a été bien pis. Ordinairement, c'était avec des galoches qu'elle me pétrissait la poitrine. Et cette nuit-là, elle est venue avec des sabots.
Et elle vient ainsi
toutes les nuits que le bon Dieu fait. Aussi j'en maigris. Vous voyez bien, général, que j'en deviens éthique. Mais ce matin, j'ai pris mon parti.
Et quel parti as-tu pris, Moquet ?
J'ai pris le parti de lui flanquer un coup de fusil, donc.
C'est un parti sage. Et quand dois-tu le mettre à exécution ?
Oh, ce soir ou demain, général.
Diable, et moi qui voulais t'envoyer à Villers-et-Long.
Ça ne fait rien, général. Était-ce pressé ce que j'allais y faire ?
Très pressé.
Eh bien, je puis aller à Villers-et-Long, et il n'y a que 4 lieues en passant sous bois, et être revenu ce soir, ça ne fait que 8 lieues. Nous en avons avalé bien d'autres en chassant, général.
C'est dit, Moquet. Je vais te donner une lettre pour Monsieur Collard, et tu partiras.
Et je partirai, oui, général.
Mon père se leva et écrivit à Monsieur Collard. La lettre était conçue en ces termes.
Mon cher Collard, je vous envoie mon imbécile de garde que vous connaissez. Il s'imagine qu'une vieille femme le cauchemarde toute la nuit, et pour en finir avec son vampire, il veut tout simplement la tuer. Mais comme la justice pourrait trouver mauvaise cette manière de se traiter soi-même des étouffements, je vous l'envoie sous un prétexte quelconque. De votre côté, sous le prétexte qu'il vous plaira, vous l'enverrez chez Denré de Vouty, lequel l'enverra chez Dulaulois, lequel, avec ou sans prétexte, l'enverra au diable s'il veut. En somme, il faut que sa tournée dure au moins 15 jours. Dans 15 jours, nous aurons déménagé et nous habiterons Antilly. Et alors, comme il ne sera plus dans le voisinage de Haramont, et que, selon toute probabilité, son cauchemar le quittera en route, la mère Durand pourra dormir tranquille. Ce que je ne lui conseillerais pas de faire si Moquet demeurait dans les environs. Il vous porte 12 bécassines et 1 lièvre que nous avons tué hier en chassant dans les marais de Valu. 1000 tendres souvenirs à votre belle Herminie et 1000 baisers à votre chère petite Caroline. Votre ami, Alex Dumas. Moquet partit 1 heure après la lettre écrite et au bout de 3 semaines vint nous rejoindre à Antilly.
« Eh bien ?» lui demanda mon père en le voyant gaillard et bien portant.
« Eh bien, la mère Durand ?»«
Eh bien, mon général !» répondit Moquet tout joyeux.
« Elle m'a quitté, la vieille taupe. Il paraît qu'elle n'avait de pouvoir que dans le canton. »
7. 12 ans s'étaient écoulés depuis le cauchemar de Moquet. J'en avais 15 passés. C'était dans l'hiver de 1817 à 1818. Hélas, depuis 10 ans, mon père était mort. Nous n'avions plus de jardinier Pierre, plus de valet de chambre Hippolyte, plus de garde Moquet. Nous n'habitions plus le château, les fossés, ni la villa d'Antilly. Nous habitions une petite maison sur la place de Villers-Cotterêts, en face de la fontaine, où ma mère tenait un bureau de tabac. Elle y joignait un débit de poudre de chasse, de plomb et de balles. Tout jeune que j'étais déjà, comme je l'ai raconté dans mes mémoires, un chasseur enragé. Seulement, je ne chassais, dans l'acception du mot, que quand mon cousin, Monsieur des Violaines, inspecteur de la forêt de Villers-Cotterêts, voulait bien me demander à ma mère. Le reste du temps, je braconnais. J'avais, pour ce double exercice de la chasse et du braconnage, un charmant fusil à 1 coup qui avait appartenu à la princesse Borghèse et sur lequel son chiffre était gravé.
Mon père me l'avait donnée comme j'étais tout enfant. Et, à la vente qui avait suivi sa mort, j'avais tant réclamé mon fusil qu'on ne l'avait pas vendu, avec les autres armes, les chevaux et les voitures. Le temps de mes joies était l'hiver. L'hiver, la terre se couvre de neige, et les oiseaux, embarrassés de trouver leur nourriture, viennent là où on leur jette du grain. J'avais quelques vieux amis de mon père, possédant de beaux et grands jardins, qui me permettaient alors de faire dans ces jardins la chasse aux oiseaux. Je balayais la neige, je semais une traînée de grains, et d'un abri quelconque, ménagé à demi-portée de fusil, je faisais feu, tuant quelquefois 6, 8, 10 oiseaux d'un seul coup. Puis, quand la neige persistait, il y avait une autre espérance, c'est que l'on détournerait un loup. Le loup détourné appartient à tout le monde. C'est un ennemi public, un assassin mis hors la loi. Chacun peut tirer dessus. Alors, il ne faut pas demander si, malgré les cris de ma mère, qui redoutait pour moi un double danger, il ne faut pas demander, dis-je, si je prenais mon fusil et si j'étais le premier au rendez-vous. L'hiver de 1817 à 1818 avait été rude. Il était tombé un peu de neige, il avait gelé par-dessus, de sorte que la neige tenait bon depuis une quinzaine de jours. Et cependant, on n'entendait parler de rien. Un soir, vers 4 heures de l'après-midi, Moquet vint à la maison. Il venait faire sa provision de poudre. Tout en faisant sa provision de poudre, il me fit un signe de l'œil. Quand il sortit, je le suivis. « Eh bien, Moquet, lui demandai-je, qu'y a-t-il ?
Vous ne devinez pas, monsieur Alexandre ?
Non, Moquet.
Vous ne devinez pas que si je viens acheter de la poudre chez madame la générale, au lieu d'en acheter tout simplement à Aramont, c'est-à-dire si je fais une lieue au lieu d'un quart de lieue, c'est que j'ai une partie à vous proposer.
Oh, mon bon Moquet, et laquelle ?
Il y a un loup, monsieur Alexandre.
Bah, vraiment ?
Il a enlevé cette nuit un mouton à monsieur Détournelle, et je l'ai suivi jusqu'au bois du Tillet.
Eh bien ?
Eh bien, cette nuit, je le reverrai bien certainement, je le détournerai, et demain matin nous lui ferons son affaire.
Oh, quel bonheur !
Seulement, il faut la permission...
La permission de qui, Moquet ?
La permission de la générale.
Eh bien, rentre, Moquet, nous allons la lui demander.
Ma mère nous regardait à travers les vitres. Elle se doutait bien qu'il se tramait quelque complot. Nous rentrâmes.
« Ah, Moquet, dit-elle, tu n'es guère raisonnable, va. »«
En quoi ça, madame la générale ?» demanda Moquet.
« De lui monter la tête comme tu fais, il n'y pense déjà que trop à ta maudite chasse. »«
Dame, madame la générale, ça, c'est comme les chiens de bonne race. Son père était chasseur, il est chasseur, son fils sera chasseur. Faut en prendre votre parti. »«
Mais s'il lui arrive malheur ?»
Avec moi ? Malheur ? Malheur avec Moquet ? Allons donc, j'en réponds corps pour corps de monsieur Alexandre. Lui arriver malheur ? À lui ? Au fils du général ? Mais jamais, jamais ! Au grand jamais !
Ma pauvre mère secoua la tête. J'allais me pendre à son cou.
« Ma petite mère, lui dis-je, je t'en prie.
Mais tu lui chargeras son fusil, Moquet. »
« Soyez tranquille, 60 grains de poudre, pas un de plus, pas un de moins, et une balle de vin à la livre. »«
Tu ne le quitteras pas ?»«
Pas plus que son ombre. »«
Tu le placeras près de toi, entre mes jambes. »«
Moquet, c'est à toi seul que je le confie. »«
Et on vous le rendra intact. »« Allons, monsieur Alexandre, prenez vos clics et vos claques, et partons, la générale le permet. »
« Comment, tu l'emmènes ce soir, Moquet ?»«
Bon, demain, il serait trop tard pour le venir chercher. Le loup, c'est au point du jour que cela se chasse. »«
Comment, c'est pour chasser le loup que tu me le demandes ?»«
N'avez-vous pas peur que le loup ne vous le mange ?»«
Moquet, Moquet !»«
Et quand je vous dis que je réponds de tout ?»«
Mais où couchera-t-il, le malheureux enfant ?»
J'ai le père Moquet, donc. Il aura un bon matelas à terre, des draps blancs comme ceux que le bon Dieu a étendus sur la plaine,
et deux bonnes couvertures chaudes. Il ne s'enrhumera pas, allez. »
Et non, mère, sois donc tranquille.
Allons, Moquet, je suis prêt.
Mais tu ne m'embrasses seulement pas, malheureux enfant.
Oh, si fait, petite mère, et plutôt deux fois qu'une.
Et je me jetai au cou de ma mère, que j'étouffais à force de la serrer dans mes bras.
Mais quand te reverra-t-on?
Oh, ne soyez pas inquiète s'il ne revient que demain soir.
Comment, demain soir? Et tu me disais au point du jour?
Au point du jour pour le loup, mais si nous faisons buisson creux, il faudra bien lui faire tirer un ou deux canards sauvages dans les marais de Valus à cet enfant.
Bon, tu vas me le noyer.
Crénom, dit Moquet, si je n'avais pas l'honneur de parler à la femme de mon général, je vous dirais...
Quoi, Moquet, que dirais-tu?
Que vous ne ferez qu'une poule mouillée de votre fils. Mais si la mère du général avait été derrière lui à le tirer par les basques de son habit comme vous êtes derrière cet enfant, il n'aurait jamais tant seulement traversé la mer pour venir en France.
Tu as raison, Moquet, emmène-le, je suis folle.
Et ma mère se retourna pour essuyer une larme. Larme de mère, diamant du cœur, plus précieux qu'une perle d'Ophir. Je la vis couler. J'allai à la pauvre femme, je lui dis tout bas,
« Si tu veux, mère, je resterai. »«
Non, va, va, mon enfant, » dit-elle. « Moquet a raison. Il faut qu'un jour tu sois un homme. » Je l'embrassai encore une dernière fois. Puis j'allai rejoindre Moquet, déjà en chemin. Au bout de 100 pas, je me retournai. Ma mère s'était avancée jusqu'au milieu de la rue pour me suivre plus longtemps des yeux. Ce fut mon tour d'essuyer une larme au bord de ma paupière.
« Bon, » me dit Moquet. « Voilà que vous pleurez, vous aussi, monsieur Alexandre. »
« Allons donc, Moquet, c'est de froid. »
« Vous qui m'aviez donné cette larme, ô mon Dieu, vous savez bien, n'est-ce pas, que ce n'était pas de froid que je pleurais. »
8. Nous arrivâmes chez Moquet à la nuit noire. Nous soupâmes d'une omelette au lard et d'une gibelotte de lapin. Puis Moquet me fit mon lit. Il avait tenu parole à ma mère. J'avais un bon matelas, deux draps blancs et de bonnes couvertures bien chaudes.
« Allons, » me dit Moquet, « fourrez-vous là-dedans et dormez. Il est probable que demain, à 4 heures du matin, il faudra se mettre en campagne. »
« À l'heure que tu voudras, Moquet. »
« Oui, oui, vous êtes matinal le soir, et demain matin, il faudra vous jeter une potée d'eau fraîche dans votre lit pour vous faire lever. »
« Je te le permets, Moquet, si tu es obligé de m'appeler 2 fois. »«
Allons, on verra cela. »«
Mais tu es donc bien pressé de dormir, Moquet. »«
Que voulez-vous donc que je fasse à cette heure ?»«
Il me semble, Moquet, que tu pourrais bien me raconter une de ces histoires qui m'amusaient tant quand j'étais petit. »«
Et qui est-ce qui se lèvera pour moi à 2 heures du matin, si je vous conte des histoires jusqu'à minuit, monsieur le curé ?»«
Tu as raison, Moquet. »
« C'est bien heureux. »
Je me déshabillai et je me couchai. Moquet se jeta tout habillé sur son lit. Au bout de 5 minutes, Moquet ronflait comme une basse. Je fus plus de 2 heures à me tourner et à me retourner dans mon lit sans pouvoir venir à bout de m'endormir. Que de nuits blanches j'ai passé la veille des ouvertures de chasse. Enfin, vers minuit, la fatigue l'emporta. À 4 heures du matin, une sensation de froid me réveilla en sursaut. J'ouvris les yeux. Moquet avait rejeté la couverture sur le pied de mon lit et se tenait debout auprès, les 2 mains appuyées sur son fusil et le brûle-gueule à la bouche. Sa figure rayonnait à la lueur de sa pipe qui, à chaque aspiration de son souffle, éclairait son visage.
« Eh bien, Moquet, lui dis-je.
Eh bien, il est détourné. »
« Le loup? Et qui est-ce qui l'a détourné ?»
« Ce pauvre Moquet. »«
Ah, bravo !»«
Seulement, devinez où il est allé se loger. En voilà un loup qui est bon enfant. »«
Où il est allé se loger, Moquet ?»«
Oh, je vous le donne en 100, dans la remise des 3 chaînes. »«
Eh bien, mais il est pincé, alors. »«
Pardieu !»
La remise des 3 chaînes est un bouquet d'arbres et de fourrés d'environ 2 arpents situés au milieu de la plaine de Largny, à 500 pas à peu près de la forêt.
« Et les gardes ?» continuai-je.
« Prévenus, répondit Moquet. « Ils sont à la lisière de la forêt, les fins tireurs. Moina, Mildé, Vatrin, La Feuille, ce qu'il y a de mieux, enfin. De notre côté, nous cernons la remise avec Monsieur Charpentier, de Valu, Monsieur Hochedet, de Largny, Monsieur Détournelles, des Fossés, vous et moi. On lâchera les chiens, le garde champêtre les appuiera, et enlever c'est peser.
Moquet, tu me mettras au bon endroit.
Puisque je vous dis que vous serez près de moi, seulement il faudrait vous lever.
Tu as raison, Moquet. Brrr.
Allons, on va avoir pitié de votre jeunesse et vous mettre un fagot dans la cheminée.
Moquet, je n'osais pas te le demander, mais si tu faisais cela, parole d'honneur, tu serais bien gentil.
Moquet alla prendre dans le chantier une brassée de bois qu'il jeta dans la cheminée en la tassant du pied. Puis il introduisit au milieu des sarments une allumette enflammée. À l'instant même, le feu pétilla et monta joyeux et clair dans la cheminée. J'allai m'asseoir sur l'escabeau du foyer et je m'habillai. Ce fut une toilette vivement faite, je vous en réponds.
Moquet lui-même en fut tout ébahi.
« Allons, dit-il, une goutte de parfait amour et en route. » Et Moquet remplit deux petits verres d'une liqueur jaunâtre que je n'eus pas même besoin de goûter pour la reconnaître.
« Tu sais que je ne bois jamais d'eau-de-vie, Moquet. »
« Ah, vous êtes bien le fils de votre père, vous. Eh bien, mais qu'allez-vous donc prendre, alors ?»«
Rien, Moquet, rien.
Vous connaissez le proverbe, maison vide, le diable y entre. Mettez-vous quelque chose sur l'estomac, croyez-moi, tandis que je vais charger votre fusil, car il faut bien lui tenir parole à cette pauvre mère. »
« Eh bien, Moquet, une croûte de pain et un verre de pignolet. »
Le pignolet est un petit vin qui se récolte dans les pays non vignobles. On dit proverbialement qu'il faut être trois hommes pour le boire, l'homme qui le boit et les deux hommes qui le tiennent. J'étais assez habitué au pignolet et je le buvais à moi tout seul. J'avalais donc mon verre de pignolet, tandis que Moquet chargeait mon fusil.
« Que fais-tu donc, Moquet ? » lui demandai-je.
« Une croix à votre balle, répondit-il. Comme vous serez près de moi, nous pouvons tirer ensemble. Et pas pour la prime, je sais bien que vous me l'abandonnerez, mais pour la gloriole. Si le loup tombe, il sera bon de voir qui l'aura tué. Ainsi, visez juste.
Je ferai de mon mieux, Moquet.
Voilà votre fusil chargé aux oiseaux. En route, alors, et le canon en l'air. Je suivis la prudente recommandation du vieux garde, et nous partîmes. 9. Le rendez-vous était à la route de Chavigny. Nous trouvâmes là nos gardes et une partie de nos chasseurs. Au bout de 10 minutes, ceux qui manquaient encore nous avaient rejoints. À 5 heures moins quelques minutes, on se trouva au complet. On tint conseil. Il fut convenu que l'on envelopperait la remise des 3 chaînes à grande distance et que l'on se rapprocherait peu à peu de manière à la cerner. Le mouvement devait se faire le plus silencieusement possible, l'habitude bien connue de messieurs les loups étant de décamper au moindre bruit. Chacun devait étudier avec soin le chemin qu'il parcourrait afin de s'assurer si le loup était toujours dans la remise. Le garde champêtre tenait les chiens de Moquet couplés. Chacun prit sa place à l'endroit de la remise où sa marche le conduisit. Le hasard fit que Moquet et moi nous nous trouvâmes placés sur la face nord de la garenne, c'est-à-dire sur celle qui était parallèle à la forêt. Comme l'avait dit Moquet, nous étions à la meilleure place. Il était probable que le loup chercherait à gagner la forêt, et par conséquent, déboucherait de notre côté. Nous nous adossâmes, chacun contre un chêne, à 50 pas de distance l'un de l'autre. Puis, sans bouger, retenant notre souffle, nous attendîmes. Les chiens furent découplés sur la face opposée à celle que nous gardions. Ils donnèrent 2 coups de gueule et se turent. Le garde champêtre entra derrière eux dans la remise, frappant les arbres avec son bateau et criant « Taillot !» Mais les chiens, l'œil hors de la tête, les babines relevées, le poil hérissé, semblaient fichés en terre. Il n'y eut pas moyen de leur faire faire un pas de plus. « Hé, Moquet !» cria le garde champêtre. Il paraît que c'est un crâne loup, car Rocador et Tombelle n'en veulent pas reprendre. »
Mouquet se garda bien de répondre. Le bruit de sa voix eut indiqué à l'animal la direction où il trouverait des ennemis. Le garde champêtre continua d'avancer en frappant contre les arbres. Les deux chiens le suivaient, mais prudemment, par derrière, pas à pas, sans aboi, et se contentant de gronder.
« Tonnerre de Dieu !» cria tout à coup le garde champêtre. « J'ai manqué lui marcher sur la queue. Au loup ! Au loup ! Au loup ! À toi, Mouquet, à toi !»
Et en effet, quelque chose venait à nous comme une balle. L'animal s'élança hors de la remise, rapide comme un éclair, juste entre moi et Mouquet. C'était un énorme loup, presque blanc de vieillesse. Mouquet lui envoya ses deux coups de fusil. Je vis ses deux balles ricocher dans la neige.
« Mais tirez donc » cria-t-il. « Tirez donc !»
Seulement alors, j'épaulai. Je suivis un instant l'animal et fis feu. Le loup fit un mouvement, comme pour mordre son épaule.
« Il en tient ! Il en tient !» cria Mouquet. « L'enfant a mis le bout au droit, aux innocents les mains pleines !»
Cependant, le loup continuait sa course et piquait droit sur Moina et Mildé, les deux meilleurs tireurs de toute l'inspection. Tous les deux firent feu de leur premier coup dans la plaine, de leur second coup sous bois. On vit les deux premières balles se croiser et sillonner la neige en la faisant rejaillir. De ces deux premières balles, le loup n'avait pas été touché, mais sans doute il était tombé sous les autres. Il était inouï que les deux gardes qui venaient de faire feu manquassent leur coup. J'avais vu tuer à Moina 17 bécassines de suite. J'avais vu Mildé couper en deux un écureuil qui sautait d'un arbre à l'autre. Les gardes avaient suivi le loup sous bois. Nous regardions, haletants, l'endroit où il avait disparu. Nous les vîmes reparaître, l'oreille basse et hochant la tête.
« Eh bien ! » cria Mouquet, interrogeant les tireurs. « Bon ! » fit Mildé avec un mouvement de bras. « Il est à Taillefontaine maintenant. »« À Taillefontaine ! » fit Mouquet tout ébahi. « Ah ça ! Mais ils l'ont donc manqué, les maladroits !
Mais pourquoi pas ? Tu l'as bien manqué, toi ! » Mouquet secoua la tête.
« Allons, allons, il y a quelque diablerie là-dessous, » dit-il. « Que je l'ai manqué, c'est étonnant. Cependant, c'est encore possible. Mais que Moina l'ait manqué de ses deux coups, non, je dirais non. »«
C'est pourtant comme cela, mon pauvre Mouquet. »
« D'ailleurs, vous l'avez touché, vous !» me dit-il.
« Moi ? Es-tu sûr ?
C'est honteux à dire pour nous autres, mais, aussi vrai que je m'appelle Mouquet de mon nom de famille, vous l'avez touché, voyez-vous. »«
Eh bien, mais si je l'ai touché, c'est bien facile à voir, Mouquet. Il fera 100. Courons, Mouquet, courons. »
Et je joignis l'exemple au précepte. « Non, pardier, ne courons pas !» cria Mouquet en serrant les dents et en frappant du pied. « Allons doucement, au contraire, que nous sachions à quoi nous en tenir. »
« Allons doucement, mais allons !»
Et il se mit à suivre pas à pas la trace du loup.
« Ah, pardieu ! » lui dis-je, « il n'y a pas de crainte de la perdre, sa passée, elle est visible. »«
Oui, mais ce n'est pas cela que je cherche. »«
Que cherches-tu donc ?
Vous le saurez tout à l'heure. »
Les chasseurs qui enveloppaient avec nous la remise nous avaient rejoints et nous suivaient par derrière, le garde champêtre leur racontant ce qui venait de se passer. Mouquet et moi, nous suivions les pas du loup, profondément empreints sur la neige. Arrivés à l'endroit où l'animal avait essuyé mon feu,
« Eh bien, tu vois, Mouquet, lui dis-je, je l'ai manqué. »«
Et pourquoi cela l'avez-vous manqué ?»«
Dame, puisqu'il ne fait pas 100. »«
Alors, cherchez la trace de votre balle sur la neige. »
Je m'orientai et m'écartai dans la direction que ma balle avait dû suivre, en supposant qu'elle n'eût pas touché le loup. Je fis un demi-kilomètre inutilement. Je pris le parti de rabattre sur Mouquet. Il faisait signe aux gardes de venir le rejoindre.
« Eh bien ? » me dit-il. « Et la balle ? » ?»«
Je ne l'ai pas trouvée. » »«
Alors j'ai été plus heureux que vous. Je l'ai trouvée, moi. »«
Comment ? Tu l'as trouvée ? » ?»«
Oh, faites le tour et venez derrière moi. »
J'obéis à la manœuvre commandée.
les chasseurs de la remise s'étaient rapprochés. Mais Mokey leur avait indiqué une ligne qu'ils ne devaient pas franchir. Les gardes de la forêt se rapprochaient à leur tour. « Eh bien ?» leur demanda Mokey. « Manqué !» dirent ensemble Mildé et Moana. « J'ai bien vu que vous l'aviez manqué dans la plaine, mais sous bois. »«
Manqué aussi. »«
Vous êtes sûr ?» On a retrouvé les deux balles chacune dans le tronc d'un arbre.
« C'est à n'y pas croire !» dit Vatrin.
« Non, c'est à n'y pas croire !» reprit Mokey. « Et cependant, je vais vous montrer quelque chose de plus incroyable encore. »«
Montre ?
Regardez là, sur la neige. Que voyez-vous ?
La passée d'un loup, pardieu !
Et auprès de sa patte droite, là, qu'y a-t-il ?
Un petit trou.
« Eh bien, vous ne comprenez pas ?»
Les gardes se regardèrent avec étonnement.
« Comprenez-vous à cette heure ?» reprit Mokey.
« Impossible !» dirent les gardes.
« C'est pourtant comme cela, et la preuve, je vais vous la donner. »
Mokey plongea sa main dans la neige, chercha un instant, et, avec un cri de triomphe, tira de la neige une balle aplatie.
« Tiens, dis-je, c'est ma balle !»
« Vous la reconnaissez donc ?»«
Je crois bien, tu l'avais marquée. »«
Et quel signe lui avais-je fait ?»«
Une croix. »«
Vous voyez, messieurs ?» dit Mokey.
« Alors, explique-nous cela. » »«
Eh bien, il a écarté les balles ordinaires, mais il n'a pas eu de puissance sur la balle de l'enfant qui avait une croix. Il l'a reçue à l'épaule. Je l'ai vu faire le mouvement de se mordre. »
« S'il a reçu la balle à l'épaule ?» demandai-je, étonné du silence et de l'ébahissement des gardes. « Comment ne l'a-t-elle pas tuée ?»«
Parce qu'elle n'était ni d'or ni d'argent, mon mignon, et qu'il n'y a que les balles d'or ou d'argent qui puissent entamer la peau du diable et tuer ceux qui ont fait un pacte avec lui. »«
Mais enfin, Mokey !» dirent les gardes en frissonnant.
« Tu crois ?»
« Eh oui, pardier, je jurerais que nous venons d'avoir affaire au loup de Thibault le sabotier. »
Les gardes et les chasseurs se regardèrent. Deux ou trois firent le signe de la croix. Tous paraissaient partager l'opinion de Mokey et savoir ce que c'était que le loup de Thibault le sabotier. Moi seul, je l'ignorais.
« Mais, enfin, insistai-je, qu'est-ce que c'est que le loup de Thibault le sabotier ?»
Mokey hésitait à me répondre.
« Ah, par ma foi !» s'écria-t-il enfin. « Le général m'a dit que je pourrais vous conter l'affaire quand vous auriez 15 ans. Vous les avez, n'est-ce pas ?»«
J'en ai 16 !» répondis-je avec fierté.
« Eh bien, le loup de Thibault le sabotier, mon cher monsieur Alexandre, c'est le diable. Vous m'avez demandé hier soir une histoire, n'est-ce pas ?»«
Oui.
Revenez avec moi ce matin à la maison. » Et je vous en raconterai une d'histoire. Et une belle. »
Gardes et chasseurs se séparèrent en échangeant silencieusement une poignée de main. Chacun tira de son côté, et nous rentrâmes chez Mokey, qui me raconta l'histoire que vous allez lire. Peut-être me demanderez-vous pourquoi, depuis si longtemps que m'a été racontée la susdite histoire, je ne voulais pas raconter encore. Je vous répondrai qu'elle était serrée dans une case de ma mémoire qui est restée constamment close et qui ne s'est rouverte qu'il y a 3 jours. Je vous dirai bien à quelle occasion, mais probablement ce récit, qui empêcherait notre entrée en matière, serait pour vous d'un médiocre intérêt. J'aime donc mieux commencer mon récit à l'instant même. Je dis « mon récit » quand je devrais peut-être dire « le récit de Mokey ». Mais, par ma foi, quand on a couvé un œuf 38 ans, on peut bien finir par croire qu'on l'a pondu.